Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le droit d'asile en question avec le sociologue Smaïn Lacher, spécialiste de l'immigration, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, chercheur au laboratoire des dynamiques européennes, auteur du Peuple des clandestins paru chez Calman Levy en 2007 ou encore d'une mythologie des sans-papiers au cavalier bleu. Il publie aujourd'hui Croire à l'incroyable chez Gallimard, une enquête immersive au cœur d'une institution méconnue, la Cour nationale du droit d'asile. Pendant 14 ans, comme juge assesseur, représentant du HCR. Il y a écouté les récits de demandeurs d'asile et traité leurs requêtes, celles des requérants déboutés en première instance de leur demande d'asile par l'OFPRA. Alors que la loi Asile et Immigration vient d'être adoptée en première lecture, la France reste-t-elle une terre d'asile? La question est large, on va peaufiner. Bonjour à vous, Smaïn Lacher.
Bonjour.
Du fait migratoire au droit d'asile, vous racontez ici en ethnographe un univers fantasmé par beaucoup, peut-être par vous aussi, à l'origine. Avec quels a priori ou parti pris avez-vous commencé cette enquête? Alors, qui n'en est pas totalement une.
Oui, j'avais peu de fantasmes en réalité parce que moi, comme d'autres, comme beaucoup, je ne connaissais pas très bien cette juridiction administrative. Alors je savais bien que les demandeurs d'asile pouvaient faire recours à la Cour nationale du droit d'asile, mais je ne connaissais pas du tout cette juridiction de l'intérieur. Je ne savais pas qu'il y avait 3 juges, qu'il y avait plus de 80 formations de jugement, que des gens y jouaient leur destin. Et donc, à la vérité, je n'avais pas beaucoup d'a priori. Mais pour dire la vérité, je n'en avais quasiment aucun. Je me disais que là, je pouvais être utile, parce que ça correspondait à mon éthos d'engagement. C'est une manière pour moi de m'engager. Je suis assez rétif à la soumission partisane. Je me suis dit que la Cour nationale du droit d'asile était un endroit fait pour moi, fait pour pouvoir accomplir l'engagement que je désirais accomplir, tout simplement.
Vous n'êtes pas justement, et c'est peut-être important de le raconter pour votre démarche, expliquer comment vous avez ouvert les yeux au cœur de cette cour à laquelle vous avez participé. Vous n'êtes pas un sociologue militant, c'est-à-dire que vous travaillez aussi pour des institutions publiques, des centres de recherche, des universités, mais pas directement pour des associations ou des collectifs. Reste que pour la première fois, vous vous retrouvez un peu de l'autre côté du manche, là où se déploie, comme vous l'écrivez, la pensée de l'État. Pensez que vous êtes alors en charge de faire respecter. Est-ce que ça a été difficile de revêtir cet habit, ce nouvel habit?
Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et en particulier lors des premières séances où, je dois l'avouer aujourd'hui, j'étais quelque peu désarçonné. Tout cela me paraissait étrange. Et surtout, ce qui m'a particulièrement frappé, contrairement à mes enquêtes, contrairement à ce que je faisais traditionnellement quand je faisais de la sociologie, c'était l'extrême rapidité des analyses, des jugements et des décisions. Tout était rapide. La temporalité qui est celle de cette juridiction, de la CNDA, n'était pas du tout, mais alors pas du tout, la temporalité propre à l'activité sociologique, par exemple aux entretiens. Et quand il fallait poser des questions à des requérants, il fallait poser peu de questions, il fallait que ces questions soient le plus pertinente possible, et surtout au moment du délibéré, on ne pouvait pas s'étendre. Comme m'avait dit un président, on ne pouvait pas y passer la nuit. Donc il fallait réfléchir vite, évaluer, juger vite, dans des conditions de contraintes très très importantes.
Il faut expliquer le titre, peut-être. D'abord, il faut en passer par le sous-titre « Un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile ». Croire à l'incroyable. Alors, c'est pas un livre sur la transcendance, non, sur la quête de Dieu, Dieu existe-t-il ou autre. Ce titre, vous le définissez ou l'expliquez très bien dans cet ouvrage. Comment concevoir l'épreuve, a priori inconcevable, du demandeur d'asile et qui n'est ni tout à fait communicable, ni tout à fait incommunicable. Vous expliquez que c'est justement la tâche de cette cour, celle de dépasser cette incompréhension fondamentale entre le requérant et ses juges. Tout l'objet d'une audience est de créer l'interaction entre des mondes fort différents.
Oui, c'est vraiment l'enjeu principal, c'est l'enjeu premier, c'est de croire, c'est-à-dire de penser que c'est plausible ce qu'on nous raconte, de croire celui qui arrive avec une histoire singulière, et une histoire qui s'est confectionnée pour l'essentiel dans un pays à la fois étranger, et étrange. Quand c'est un Afghan qui arrive à la Cour nationale du droit d'asile, très peu de présidents, très peu de juges assesseurs connaissent l'Afghanistan. J'avais eu le bonheur de connaître l'Afghanistan parce que j'avais rempli une mission pour le HCR, mais quand on vous raconte Kaboul, si vous n'y avez jamais été, ça vous paraît un monde absolument incroyable, un monde tout à fait inaccessible, construit radicalement différent du vôtre. Et donc, la difficulté principale, c'est d'essayer de comprendre ce que dit l'autre, le requérant, avec une langue qui est différente. Ou en tout cas, ce n'est pas sa langue à laquelle vous accédez, c'est la langue de l'interprète ou est la langue de l'avocat. Donc, par exemple, il y a des mots qui sont intraduisibles. Je ne sais pas, par exemple, pour un Bangladais, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Pour un copte égyptien qui demande asile, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Comment se traduit la laïcité ? Que recouvre cette notion-là ? Est-ce qu'elle est pertinente pour comprendre ce qui s'est passé pour le requérant, etc. ? Donc, il y a vraiment des choses qui ne sont pas a priori croyables et qu'il faut impérativement rendre plausible, rendre possible.
Quand on a un juge assesseur comme vous, avec des cheveux blancs, Smaïn Lacher, et que pour la première fois on se retrouve dans cette position qui consiste à pouvoir accorder le bénéfice du doute ou au contraire le retirer, j'imagine qu'on n'a pas envie de pécher par naïveté, mais comment ne pas du coup tomber dans le travers contraire qui est de considérer tout récit comme suspect.
Oui, second enjeu extrêmement important. Vous savez que le doute doit bénéficier au requérant. Mais il est vrai que nous sommes dans une configuration tout à fait particulière, tout à fait singulière. C'est une juridiction administrative qui rend de très nombreuses décisions et surtout qui ne reçoit que des étrangers. Des étrangers qui sollicitent une protection internationale, qui sollicitent une protection à la France. Alors, c'était beaucoup plus facile avant. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus facile dans les années 70, dans les années 80, une bonne partie des années 80, parce que ceux qui sollicitaient la protection, eh bien, ça allait de soi pour l'État français, pour la nation française, de leur accorder la protection. Ils venaient d'Amérique latine, donc des militants antifascistes chiliens. C'était difficile de penser qu'ils venaient en France pour des raisons, dit-on, économiques. Pour les dissidents des pays de l'Est, aussi, c'était quand même difficile de dire « mais non, vous n'êtes que des migrants économiques, que venez-vous faire chez nous ?» Donc, tout allait bien jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'à la chute de l'Empire soviétique. Et là, effectivement, à la fois l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ont vu arriver des populations qui ne ressemblaient plus aux populations qui demandaient l'asile depuis 1952. Et en plus, il y avait très peu de gens qui demandaient l'asile. Je me souviens que les premières années, c'était même pas une centaine de demandes d'asile. Donc on est quand même loin de la pique des 100 000 demandeurs d'asile en 2017. Voilà.
Aujourd'hui, quel est le profil du coup des requérants ? Ils viennent vous le raconter pour l'essentiel de pays en crise économique et politique. Il y a des Albanais, il y a des Afghans, des Ivoiriens, des Guinéens, des Soudanais, des Érythréens, des Éthiopiens, des provenances extrêmement différentes et aussi aujourd'hui des migrants climatiques, toutes ces nouvelles catégories. On a l'impression qu'on a encore du mal à les matérialiser, à les concrétiser. Or, c'est le principe de cette institution, d'une institution même, vous l'écrivez, c'est de catégoriser les populations. Oui. Le but pour eux, c'est d'entrer dans la bonne catégorie.
Absolument.
C'est de pouvoir bénéficier de ce droit d'asile, en tout cas de ce statut qui est plus protecteur que les autres. Et vous, vous évoquez l'extrême porosité, voire la fragilité, sinon l'inanité de ces distinctions. Mais comment faire ?
Il faut faire avec ce que l'on a, il faut faire avec les ressources linguistiques, les ressources juridiques, les ressources institutionnelles. On n'a pas le choix, il faut que l'institution continue de juger, il faut que l'institution continue
de sélectionner quelque part.
Alors, vous n'aimez de sélectionner, pas le terme, alors, mais... moi c'est le terme enfin je n'emploie pas ce terme-là, je dirais que c'est le propre de toute institution, par définition, par essence, toute institution inclut et exclut. Il n'y a pas d'institution qui ne fait que inclure les personnes. Vous pensez à l'école, vous pensez à l'institution militaire, vous pensez même à la famille, etc. Donc, c'est un vrai travail de catégorisation, bien évidemment, mais l'institution n'est pas la seule à catégoriser. Des luttes en dehors d'elle contribuent à produire des catégories. Mais les populations qui arrivent à la CNDA depuis les années 90, sans aucun doute possible, viennent de pays où il y a des conflits, où il y a des guerres civiles, et je crois qu'on ne peut pas dissocier, qu'on ne peut pas distinguer, qu'on ne peut pas séparer pour les besoins de la cause, misère économique et guerre civile. C'est absolument impossible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut parfaitement partir pour des raisons qui ne sont pas liées à la demande d'une protection, mais en cours de route, rencontrer toute une série de problèmes extrêmement importants et devenir potentiellement un demandeur d'asile. Au fond, pour dire les choses très simplement, il y a une réelle difficulté, même pour les institutions, dont une des activités, c'est bien de catégoriser, le HCR, c'est bien ce qu'il fait, il y a une réelle difficulté à distinguer ceux qui ont besoin d'une protection et ceux qui n'ont pas besoin d'une protection. Et ceux qui ont besoin d'une protection, ils ont besoin d'une protection quand, où, pourquoi ?
Face à cette misère, il nous faut, à nous, France, prendre notre part. Ça, c'est l'expression, la formule bien connue. Mais quelle part et surtout, qui protéger aujourd'hui, qui accueillir ? C'est toute la question. Et là, c'est à vous, juge, de prendre cette décision. On va expliquer comment et selon quel processus. Mais il faut bien voir que face au requérant, il y a donc un président, deux assesseurs, un rapporteur qui va rendre la décision publique une fois qu'elle est formulée. Dans tous les cas, face à eux, il y a une juridiction humaine, donc imparfaite. Et dans cet ouvrage, vous faites état autant des manquements que des qualités de cette institution. Institution indissociablement humaine, écrivez-vous, vivable et socialement utile, mais aussi sans doute parfois injuste. Vous ne tracez pas un camp, une frontière entre les bons et les méchants. C'est pas le but du jeu ici. Vous refusez, et vous le rappelez, d'interpréter cet espace selon une logique de partage immuable entre les humanistes et les rigoristes du droit, entre les protecteurs des réfugiés et les indifférents à leurs souffrances. Ce n'est pas un combat entre nations et réfugiés. Le réduire à cela, ça ne servirait à rien.
Non seulement ça ne servirait à rien, mais ça serait se tromper de combat. Et je pense, au fond, ce serait profondément altérer le jugement et la recherche, non pas tant de la vérité, car nous n'y avons pas accès, ni le président, ni les deux juges, même quand on a fait de la sociologie, même quand on a fait des enquêtes sur le terrain, en particulier dans les pays d'origine des requérants. Je pense que, modestement, ce n'est pas la vérité à laquelle nous devons penser, mais c'est plutôt à des choses qui seraient vraisemblables, auxquelles on aurait accès, par exemple, par le récit, bien entendu, mais aussi par toute une série de documents mis à la disposition des juges pour que leur jugement soit moins aléatoire, soit moins arbitraire. Et bien évidemment, le souci premier du juge, c'est d'être impartial. Mais cette impartialité, elle est confrontée à l'épreuve humaine, à l'épreuve du récit des requérants, à l'épreuve de leur histoire, de leur douleur, de leur souffrance, etc.
Et c'est là où cette Cour nationale du droit d'asile est très particulière, parce qu'au cœur de la décision, il y a, là encore, comme partout, la question de la véracité des faits et des arguments avancés. Et à qui revient la charge de la preuve ? À eux, aux requérants. Mais c'est une preuve très particulière dans sa nature. C'est un régime de la preuve libre que vous nous racontez, c'est-à-dire de l'intime conviction. Vous mettez en avant sa dimension psychosociologique et ça permet de s'interroger sur cette subjectivité qui va se déclencher en vous et la valeur à lui accorder. Juste sur cette question de la vérité et de la vérité judiciaire, qui est un concept particulièrement difficile à appréhender. S'il n'est pas critiquable, cette notion nous rappelle qu'il n'y a pas une vérité univoque. Je vous propose d'écouter à ce sujet le magistrat Denis Salas, secrétaire général de l'Association française pour l'histoire de la justice.
Il faut se garder de voir dans la vérité judiciaire un absolu, une sorte de réalité intangible qui serait accessible en fonction de l'évolution d'une enquête ou de la progression d'un débat qui produirait comme par miracle la vérité. Ce que j'ai voulu dire, c'est en me rapprochant de Michel Foucault. Michel Foucault avait dit dans ses travaux, il n'y a pas la vérité, il y a des pratiques de la vérité. Il y a un outil que nous pratiquons qui s'appelle la discussion contradictoire, c'est-à-dire que ou le débat contradictoire. C'est-à-dire que dans un débat judiciaire, compte tenu de cette incertitude fondamentale qui s'attache à la vérité relative, narrée, on oppose des récits qui vont se confronter tantôt du côté de la défense, tantôt du côté de l'accusation, et qui vont effectivement produire la preuve la plus convaincante devant un tiers, qui est le juge, ou un jury, qui va effectivement décider la vérité qui aurait été la plus convaincante. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un absolu.
Alors comment faire ici, Smaïl Lacher? Parce qu'il n'y a pas directement du contradictoire.
Oui, alors, il y a du contradictoire. Il y a du contradictoire.
Quoi,
alors,
dans la collégialité de la décision?
Il y a deux moments du contradictoire. D'abord parce que c'est une procédure contradictoire. D'abord, il y a un avocat qui n'existe pas à l'OFPRA, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le requérant est en face de l'officier de protection. Il y a l'interprète. Il y a depuis quelque temps quelqu'un qui peut accompagner le requérant et entrer dans le box avec lui. Mais il n'y a pas de débat contradictoire. Bon, l'officier de protection recueille le récit et après jugera de la plausibilité du récit, de la crédibilité du récit. À la Cour nationale du droit d'asile, ce n'est pas la même configuration du tout. Il y a deux grands moments. Il y a le moment du contradictoire. On interroge le requérant. L'avocat est là, qui a déjà mis en forme le récit du requérant, qui a fait ressortir les pièces principales, et donc qui travaille la crédibilité du récit de son client. Bon. Et puis le client peut se défendre. Le requérant peut amener des dimensions de preuves, peut fournir des preuves qu'il jugera utiles. Il peut parfaitement contredire le juge. Il peut même, il arrive, et j'ai déjà vu ça, contredire légèrement son avocat. Bon, donc il y a une discussion, il y a des points de vue différents, il y a un espace de points de vue au moment de l'audition. Et puis, il y a le deuxième moment qui est très important, c'est le moment de la collégialité. Et le moment de la collégialité, ce sont les trois juges qui vont ensemble examiner le cas, et l'examen peut susciter une controverse, mais ce qui me semble peut-être le plus important, c'est que c'est trois juges qui vont discuter d'un cas singulier, eh bien, ça offre cette particularité, ce mécanisme, je dirais, de maîtrise des subjectivités. On essaye de prendre notre temps pour examiner le plus impartialement possible les dossiers qui, aux yeux des trois juges, paraissent importants, paraissent épais, etc.
Mais parce que le contrôle des subjectivités, pardon, pour sortir d'un langage un peu oui. technique et raconter quand même, peut-être on peut prendre un exemple, la réalité ou les réalités que vous avez face à vous dans ces moments-là, c'est aussi comment, face à la fragilité de la preuve et de la difficulté à étayer certains récits, certains témoignages de choses qui ont pu se passer à des milliers de kilomètres de là, parfois dans des périodes assez reculées, oui. comment ne pas se laisser déborder par son émotion, comment se laisser éventuellement emporter ou convaincre ou pas par un récit qui est peu étayé, et puis finalement comment ne pas tomber dans une forme d'arbitraire, c'est-à-dire comment n'être pas victime justement de ces émotions.
Non, vous avez parfaitement raison, c'est tout à fait vrai. Je pourrais citer des cas extrêmement précis, et puis je pourrais après tout vous dire quelques exemples auxquels j'ai été personnellement confronté et qui a mis à mal mon impartialité, qui a mis à mal mon objectivité, et je me souviens parfaitement de cas extrêmement précis où ce qui l'a plutôt emporté, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais c'est plutôt oserais-je le dire, la condition ontologique de la personne qui était devant moi.
Je vous prends
un seul exemple. Une femme, plus de 74 ans, tamoule, qui a des enfants, qui sont dispersés, l'un aux États-Unis, l'un au Canada, l'un en Australie et l'un en Angleterre. Elle n'a pas été personnellement persécutée au sens de la Convention de Genève, c'est-à-dire qu'elle était incapable, et pour cause, d'invoquer un des cinq motifs de l'article 1-2 de la Convention de Genève. Bon, mais voilà, elle dit « Je n'ai plus personne au Sri Lanka, je n'ai plus personne, aucun membre de ma famille, et donc je tente de rejoindre mes enfants. » Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il y a très peu de chances pour que ce cas soit un attentat au fondement de la République si vous lui accordez l'asile. Il y a très peu de chances. Il n'y a quasiment aucune chance pour que ce soit une source de troubles à l'ordre public. Alors, il y a des techniques pour dépasser la difficulté. On peut dire qu'il y a persécution par ricochet. Donc, autrement dit, ces enfants ont été persécutés, elle risque donc la persécution. Mais quand j'avais ce cas devant moi, c'était absolument impossible de ne pas penser à des êtres très proches. Comme il était absolument impossible pour moi de ne pas penser à une situation qui serait identique et dans laquelle, par exemple, ma mère pourrait parfaitement se retrouver un jour. Donc je ne peux pas, pour un grand nombre de cas en réalité, on ne peut pas faire abstraction d'une identification compliquée entre le juge et le requérant à propos de récits tout à fait particuliers. Voilà. Et je pense que cette identification permet d'ailleurs de mieux comprendre, de comprendre plus justement la condition des personnes qui sont en face de vous.
Et là encore, vous donnez un exemple où votre conscience a joué les anges gardiens. Il doit y avoir aussi des contre-exemples qui peut-être vous ont aussi empêché de dormir. C'est à des moments, des situations où vous avez débouté des demandeurs parce que ce système d'identification ou que le récit n'était pas assez convaincant, enfin tout ça n'avait pas joué.
Oui.
Et après coup, peut-être ça a laissé quand même des vies, des situations en suspens.
Non, absolument, vous avez raison. Mais je pense que c'est vrai pour tous ceux qui ont à juger, et en particulier tous ceux qui sont juges et qui peuplent l'institution judiciaire. Il est absolument impossible de ne pas se dire, à un moment ou à un autre, à l'égard d'un cas ou d'un autre, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et se tromper dans ce cas peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour celui qui sera rejeté. À qui on n'accordera pas de protection internationale.
Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile chez Gallimard. Notre invité Smaïn Lacher est avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Smaïn Lacher, dans ce que vous nous racontez, on sent bien que l'asile est aussi un concept et une réalité en tension entre le juridique et le politique. Pour ouvrir cette dernière partie de notre discussion, je vous propose d'écouter ce que nous disait le réalisateur et ministre de la Culture au Tchad, Mohamed Saleh Haroun. Il nous avait montré dans son nouveau film « Une saison en France, le quotidien à Paris » d'une famille de demandeurs d'asile centrafricains. Il est passé à la grande table et il racontait ce qu'avait été pour lui aussi, à son arrivée en France, ce parcours du combattant.
Le parcours du combattant, c'est déjà de pouvoir déposer une demande. Maintenant, c'est presque, on peut le voir partout, des réfugiés qui vont passer la nuit devant les bureaux où ils espèrent pouvoir déposer leur demande. Une fois que vous avez déposé une demande, il va falloir attendre. C'est un temps d'inertie qui est imposé comme ça, il faut attendre pour avoir une réponse. Une fois que, si la réponse est négative, vous avez la possibilité de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Et là aussi, alors, il faut attendre, il faut passer une audition auprès des juges de l'asile. Et là, j'étais moi à Montreuil, à la Cour nationale du droit d'asile, et j'ai vu des gens mais tomber en syncope parce que leur demande a été refusée. Et tenez-vous bien que à la Cour nationale du droit d'asile, chaque semaine, il y a des interventions, 2 à 3 interventions de pompiers qui viennent ramasser des gens qui n'en peuvent plus parce que, voilà, ils craquent, ils tombent, ils sont mal. Et ça, je l'ai vu et je me dis que ça mérite quand même qu'on montre cette réalité-là au quotidien. Voilà.
De l'autre côté du miroir, Smaïn Lachère, avec le cinéaste Mohamed Saleh Haroun, c'est une réalité que vous avez pu aussi constater.
Non, indiscutable. C'est ce qui est dit est d'une cruelle vérité. Alors, j'ai pas compté le nombre d'interventions de pompiers à la Cour nationale du droit d'asile, mais j'en ai vu un certain nombre. Et bien évidemment, chacun peut s'imaginer ce que peut signifier un refus de la Cour nationale du droit d'asile. Ça veut dire que il faut repartir, non pas tout à fait à zéro, mais presque, et puis va s'en suivre une longue procédure tout aussi aléatoire que la précédente. Et je voudrais quand même le signaler et le rappeler, souvent, bien souvent, dans des conditions de précarité extrême. Ceux qui ont la chance d'être dans un CADA, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, eh bien, ils auront à leur disposition pas simplement un abri, pas simplement de quoi manger, pas simplement de quoi ne pas avoir froid pour ne plus errer, mais ils auront un avocat, ils auront une assistante sociale, ils auront probablement un travailleur social qui va s'occuper de ce requérant. Mais la grande majorité des requérants sont des gens qui vivent dans une grande précarité et on comprend bien que aller à la Cour nationale du droit d'asile dans ces conditions-là ne favorise pas beaucoup la production de récits crédibles.
Précarité aussi de l'autre côté du miroir, du côté des agents de la Cour nationale du droit d'asile qui ont fait grève un mois récemment contre le projet de loi asile et immigration en cause la cadence des décisions, les conditions de travail et cette politique du chiffre, comme ils la nomment. Il faut dire que la juridiction ne chôme pas. Si mon chiffre est bon, 47 814 décisions rendues l'an dernier.
Absolument.
C'est beaucoup.
C'est la première juridiction en nombre de décisions.
Et voilà. Et ça, on n'imagine pas cette réalité-là.
C'est une énorme machine. C'est un travail pénible, bien souvent. Les rapporteurs font un travail qui, de mon point de vue, est tout à fait conséquent, mais ô combien difficile. Et plus ça va, plus on leur demande de faire plus avec moins de temps.
Alors, dans ces conditions-là, on se dit que peut-être il fallait changer quelque chose, peut-être qu'une nouvelle loi, encore une, était nécessaire. C'est chose faite. Le dimanche 22 avril, dans la nuit, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi asile-immigration qui vise à réduire les délais de traitement des demandeurs d'asile, à faciliter aussi les reconduites à la frontière pour ceux qui en sont déboutés, qui prévoit aussi l'allongement de la durée maximale de séjour en centre de rétention, le recours à la vidéo-audience à différents moments de la procédure, la réduction des délais pour faire appel après le rejet d'une demande d'asile. Voilà ce qui nous concerne ou vous concerne directement, de 30 à 15 jours de délai pour déposer un recours devant la CNDA, pour les principaux concernés, c'est-à-dire pour les demandeurs d'asile. Smaïn Lachère, d'abord, est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce que le savant dosage entre autorité et humanité a été respecté à vos yeux?
Oui, alors je crois que pour ce qui est du dosage, alors entre faire preuve d'autorité et faire preuve d'humanité, d'abord, c'est un discours ancien, tenu quasiment par tous les responsables politiques qui ont, de près ou de loin, eu affaire à ces questions de migration et d'asile. On parle aussi de texte équilibré. Sincèrement, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un texte équilibré. Il y a eu plus de 16 lois majeures depuis la moitié des années 80. Est-ce qu'une seule fois il y a eu un débat public, voire même un débat parlementaire sur les conséquences d'une loi qui avait été votée par le Parlement?
Est-ce qu'une seule fois... On a fait le bilan, en fait.
Non. Il y a une logique absolument implacable depuis maintenant fort longtemps. C'est l'empilement des lois sans en tirer aucune conséquence à la fois politique, juridique, pratique, aussi bien pour les institutions d'ailleurs que pour les requérants. Comme si c'était porter atteinte à son identité fondamentale d'État-nation que de ne pas produire une loi sur l'immigration et l'asile. Et je remarque, et c'est profondément malheureux, que la dernière loi mélange allègrement immigration et droit d'asile. Bon, je trouve ça profondément regrettable. Je pense que nous ne sommes pas en présence de la même chose. Ce ne sont pas les mêmes textes. Ce ne sont pas les mêmes catégories de personnes. Elles ne sont pas accueillies de la même manière. Et je crois même avoir entendu que, à droite, chez les républicains, qu'il fallait impérativement imposer les logiques de quotas et que ces quotas ne concerneraient pas seulement les migrants dits économiques, mais qu'ils concerneraient aussi les demandeurs d'asile. Comme si on pouvait fixer des quotas pour les demandeurs d'asile, comme si on pouvait quantifier la question des droits de l'homme, comme si on pouvait quantifier ceux qui nécessitaient des droits et ceux qui ne nécessitaient pas de droits. Je trouve ça...
Là, c'est vous qui n'arrivez pas à croire à l'incroyable. La question d'asile est devenue une question éminemment politique, en fait.
Elle est même, vous avez parfaitement raison, et je dirais même plus que ça, elle est même dans un grand nombre d'esprits. Et j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale sur cette loi. Elle est même devenue, pour certains, dans la tête de certains, un mode de régulation des flux migratoires. Ce qui me semble à la fois extrêmement grave politiquement et inadmissible d'un point de vue moral. Comment peut-on fixer un quota de gens qui fuient authentiquement des persécutions? Comment vous pouvez dire celui qui vient de la Ghouta en Syrie qu'au fond il n'a pas besoin qu'il n'a pas besoin de protection et que sa venue perturberait la logique fondamentale des flux migratoires?
Donc vous qui vouliez aller là-bas dans cette Cour nationale du droit d'asile, et on terminera là-dessus, voir la pensée de l'État se déployer, vous l'avez vue et vous la résumez comment cette pensée aujourd'hui sur cette question?
Ah, c'est une pensée d'État qui a beaucoup de mal à se penser comme une pensée d'État. Et je pense que quand on pense les phénomènes objectifs, par exemple comme l'asile, comme les phénomènes migratoires, comme les mouvements de migration, eh bien, il faut penser les choses, mais il faut aussi, et c'est un acte presque héroïque, un acte intellectuel presque héroïque, penser contre soi-même, et visiblement, ce n'est pas le chemin pris par cette grande institution qu'est l'État.
Smaïn Lacher, Croire à l'incroyable, un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile. Votre nouvel essai vient de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.
Un grand merci beaucoup
à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission, à Claire Maillot, Jean-Christophe Brianchon, Clémence Marie et Henri Leblanc, à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Florent Bujon. Je vous rappelle qu'à partir de lundi, on se retrouve pour 3 émissions spéciales en direct de la Croisette à Cannes, 3 émissions cinéma. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous et sur France Culture, évidemment. Bel après-midi.